Eh bien, bonjour pour cette rencontre avec Sir Cédric. D'abord, vous me pardonnerez pour la voix complètement cassée, mais c'est les aléas quand
Et pour le retard d'un réveil très difficile.
J'allais y venir. En fait, vous voyez, déjà une star arrive, en retard évidemment, sinon c'est pas une star. Et vous avez vu à quel point c'est un professionnel, puisqu'il a tenu à justifier devant vous sa réputation. Il est plutôt de la nuit et du soir que du matin. C'était ce que disait l'article qui est paru dans Vosges Matin consacré à notre coup de cœur. Donc après cette petite entrée en matière, fidèle au personnage chinois aux écrits, Sir Cédric est donc un de ces auteurs que le festival a découvert. Alors quand on dit ça, on le dit en toute modestie, on ne veut pas dire que c'est grâce à nous que, jamais. C'est simplement... Quand depuis le début du festival, on a comme préoccupation, parce qu'on aime la littérature comme vous, de repérer ceux qui, même jeunes, pas encore dans des grandes maisons parfois, nous semblent avoir du talent, avoir des choses à dire, avoir des choses à nous faire partager à nous lecteurs. Et le festival a toujours tenu dès le début à avoir des très grandes signatures. Bernard Werber, une des trois meilleures ventes en France. Robin Hobb, qui était présente il y a 2 ans, qui sera sans doute l'année prochaine. Jacqueline Carré, une des stars de la fantasy actuelle aux États-Unis, et ainsi de suite. Et c'est cette démarche-là qui nous permet aussi d'accueillir parfois un auteur parce qu'on a vu une première nouvelle extraordinaire, parce qu'on a vu un premier recueil ou un premier bouquin, y compris parfois par des petites maisons qui ont le courage de lancer un auteur, ce qui est toujours difficile, parce que vous, lecteurs, vous le savez, quand vous rencontrez un auteur... si vous le connaissez, ben, vous allez suivre cet auteur. S'il a une réputation, vous pensez que le risque de l'achat, parce que vous payez vos livres, contrairement aux critiques qui reçoivent des livres et qui peuvent donc avoir ces curiosités sans frais, je dirais. Et voilà, c'est ça un petit peu que fait le festival. Et donc, comme on le disait dans l'interview ce matin de Vosges Matin, Sir Cédric est venu d'abord en passionné. Il a sorti l'année suivante son premier recueil dans une petite maison. Je l'ai reçu, je l'ai lu, et j'ai eu envie de l'inviter. Et c'est comme ça que les choses se sont faites. Et d'année en année, on a vu un jeune auteur s'affirmer, une plume prendre de l'assurance. Et puis, ce que nous avions remarqué, ces premiers lecteurs passionnés ont remarqué, certains sont là depuis des années, sont ces fidèles des débuts, et on leur tire un coup de chapeau, eh bien, ils ont ensuite permis à Sir Cédric de rencontrer un éditeur, le Préau-Clair, qui lui a donné les moyens de ses ambitions littéraires. C'est-à-dire, les moyens, c'est simplement de la diffusion partout dans les librairies. Une maison qui a de l'argent, qui a la volonté de faire connaître ses auteurs, et qui lui a fait une offre qu'on voit rarement dans la littérature, c'est de rééditer chaque année un de ses livres, qui était publié à relativement peu d'exemplaires, en même temps qu'il publie une nouveauté. Alors ce petit préambule dit... Sir Cédric est donc le coup de cœur du festival. Ça veut dire que on y engage notre petite crédibilité. Les Imaginales pensent que c'est un écrivain de grand talent. Et les Imaginales le disent. Alors après, vous pouvez ne pas être d'accord avec nous. En tout cas, nous, on mouille la chemise, j'irai familièrement. Ça veut dire qu'il a une intervention minimum par jour. Et aujourd'hui, il en a 2. Ça veut dire qu'il n'avait jamais écrit de fantaisie. Mais il a tellement de talent qu'on savait que c'était pas grave et que donc on lui a commandé une nouvelle de fantasy et la première est superbe. Elle ouvre l'anthologie Magiciennes et Sorciers dont on parlera cet après-midi que j'ai eu le plaisir de diriger, de coordonner. Et la réaction immédiate a été « Ah, c'est super ton texte, y compris les professionnels de la littérature. C'est bien sûr le début de ton futur roman de fantasy. » Et nous le voilà, Sir Cédric, mal parce qu'il n'est pas du tout l'intention au début d'écrire de la fantasy. « Non, je fais du thriller gothique, non, je fais du fantastique. » Mais 2-3 ans encore et il va nous écrire un roman de fantasy. Il n'y coupera pas sous la pression de ses lecteurs. En tout cas, je crois que le fantastique et le fantastique gothique et le thriller restera une de ses passions. On en parlait hier. Comment on devient, tout simplement, avant de parler plus précisément de vos livres et d'en lire quelques extraits, qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme qui aurait pu faire une carrière au poste, comme je l'ai fait jadis au Trésor public et dans d'autres estimables administrations, décide d'emblée de faire le malheur de ses parents, de devenir écrivain ?
Alors d'emblée pas forcément, mais c'est vrai que je pense que j'ai pas eu le choix. C'est une vie qui s'est imposée à moi et auquel j'ai essayé de me dérober à plusieurs reprises quand j'avais une vingtaine d'années, et où les choses de la vie ont fait que j'y revenais toujours, parce que l'écriture c'est ma vie, c'est mon truc, c'est moi, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis adolescent, comme finalement un petit peu tous les adolescents qui griffonnent des poèmes, des textes, en général dans l'euphorie de lecture, suite à l'euphorie de la lecture de choses comme Tolkien, comme Howard, dont on retrouve l'influence encore aujourd'hui dans ma nouvelle Cœur de serpent, dans l'anthologie, et puis des gens comme Stephen King, ou plus généralement le roman d'aventure Bob Moran, les Jules Verne, que je disais quand j'étais tout petit. Et donc la plupart des ados font ça dans leur coin, sauf qu'au bout d'un moment, en général, on grandit, la vie fait qu'on a un travail, une famille, et on arrête de faire ça. Et puis moi, j'ai continué à vivre comme un teenager et à écrire mes histoires. Et donc j'ai essayé de trouver des boulots un peu plus sérieux, donc quand j'avais une vingtaine d'années, qui ont été plus catastrophiques les uns que les autres, hein, et au final je continue d'écrire dans mon coin, et c'est la seule chose qui me rend réellement heureux dans la vie. Donc il y a pas de choix, je me suis pas réveillé un matin en me disant ah ouais, je vais devenir écrivain demain, ou je vais écrire un livre. C'était déjà écrit, c'était déjà en cours, c'était déjà quelque chose que je faisais quotidiennement et dont je peux pas me passer. Donc voilà comment ça a débuté. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce qui a été dit sur les imaginales, pour moi c'est quand même un festival qui est extrêmement important à tous les niveaux, parce que c'est un petit peu les histoires des premières fois. Donc comme ça a été dit, c'est le premier festival réellement que j'ai découvert en tant que lecteur. C'était en 2004 où j'étais venu parmi le public pour rencontrer des auteurs que j'admirais, et je découvrais déjà le fait que de telles manifestations existaient, et qu'on pouvait vraiment venir à la rencontre des auteurs, discuter avec eux, avoir des signatures, puisque je suis très fétichiste et j'adore avoir l'objet que le créateur a manipulé, sur lequel il a mis sa griffe. Je fais également ça avec les vinyles, avec tout, et l'année d'après j'avais sorti mon premier livre qui était Déchirure, un recueil de nouvelles très très sanglant, très influencé par Clive Barker pour le coup, et j'ai eu la chance que les Imaginales m'invitent cette année-là, et du coup ça a été ma première séance de signature, s'est déroulée ici dans la bulle du livre. Mes premiers cafés littéraires se sont déroulés ici, les premiers lecteurs que j'ai eu réellement étaient spinaliens grâce au festival des Imaginales. Donc pour toutes ces raisons, c'est vraiment une manifestation qui est très importante à mes yeux. Il y a un attachement affectif, non, mais qui est important. Donc en plus cette année, le fait d'être coup de cœur, c'est pas rien pour moi, et c'est voilà, je vais pas, c'est difficile après d'en parler, mais c'est vraiment c'est vraiment important à mes yeux.
Mais c'est aussi un peu le climat, mais c'est vrai. Mais bon, on va parler des livres, c'est ça qui est important. Pourquoi le fantastique? Pourquoi vous auriez pu écrire du polar, d'ailleurs il y a des éléments de romans policiers, on y reviendra dans les livres, de la fantaisie, on vient de le voir là, première nouvelle, part tout de suite, si elle ouvre l'anthologie c'est qu'on la trouve singulièrement bonne, pourquoi pas de l'anticipation, non le fantastique, pourquoi ce choix d'une littérature qui de Maupassant ou à la tradition gothique est plutôt une littérature intimiste?
Alors pour plusieurs raisons. Déjà, c'est pas un choix. Encore une fois, je réfléchis pas aux choses avant de les faire, et c'est vraiment la littérature qui me correspond, le fantastique au sens large, c'est-à-dire une littérature très axée sur notre intimité, sur l'individu, sur nos peurs, nos angoisses, nos rêves, nos questionnements sur la vie au sein du chaos bouillonnant autour de nous, ou essayer de rester debout quand tout vacille. C'est, pour moi, ça, c'est le fantastique. Ce sont des métaphores aussi de nos vies, de ce qu'on est amené à vivre au quotidien. Transposé avec des images très fortes qui sont là depuis l'aube des temps, finalement, sur l'autre monde, sur les fantômes, et puis la peur du noir, et toujours cette idée de transformation, d'évolution en fait, qui est une évolution souvent physique dans mes histoires, parce que les personnages se métamorphosent, mais ça trahit surtout une évolution psychologique, personnelle, et un chemin en fait, un parcours personnel. Donc en fait, moi, dès que j'étais en âge de lire des livres un peu plus adultes que les Bob Moran que j'évoquais, c'est vrai que je me suis tourné vers des lectures comme Stephen King, comme Clive Barker, parce que c'était vraiment ça qui me parlait. Comme histoire ancrée dans le quotidien de personnes souvent ordinaires, mises face à des situations extraordinaires, et notamment l'auteur Clive Barker, où on part d'un statu quo qui est la réalité quotidienne telle qu'on peut la vivre. Une porte s'ouvre vers un autre monde, les monstres sont là, qui sont peut-être nous derrière le miroir, ça dépend des histoires, et il y a toujours une transition vers autre chose, une évolution. Ce qui n'est pas forcément le cas chez des auteurs comme Stephen King, où il y a un statu quo, donc une situation de départ. Le monstre arrive, le vampire, l'extraterrestre, le communiste, enfin, ce qui fait peur à un moment donné de l'histoire. Et la société doit se réunir pour repousser ce monstre. Et le statu quo initial est rétabli à la fin. C'était la littérature assez classique. Et dans les années 80, ça a été un petit peu chamboulé. Et ça, on revient jamais à cette situation de départ, puisque la rencontre avec l'autre nous apprend, nous transforme, nous amène vers autre chose. Et le fait de revenir en arrière serait réellement une régression. Donc c'était aussi en tant qu'adolescent, avec des thématiques très adolescentes, ça me parlait énormément. Et donc, quand j'ai commencé à écrire mes premiers textes, j'avais forcément cette culture-là, donc des films d'horreur aussi des années 80, puisque c'était dans les années 80, et également la culture classique, quand même. Des histoires, ben, Tristan et Iseult, les fleurs du mal, les chants de mal d'aurore, c'était des choses qui m'avaient vraiment traumatisé, parce que c'était beau, parce que c'était, ça dépassait le cadre et ça parlait justement de l'être humain. Ce qui m'intéresse dans la littérature, enfin j'y reviens toujours, mais c'est ça, c'est l'être humain. Et donc, il me semble que le fantastique est, pour finir, donc l'expression artistique la plus à même d'explorer ça, de creuser ces questions personnelles. Contrairement à, par exemple, la science-fiction, qui est un genre que j'aime aussi beaucoup, mais qui a davantage une vocation d'explorer la société dans son ensemble et les interactions entre personnes. Et ben, c'est pour ça que c'est très politisé, puisqu'on extrapole un petit peu que va devenir notre monde avec des problèmes comme l'écologie. Enfin, mais c'est pas vraiment ce qui, moi, m'intéresse en tant qu'auteur. Moi, c'est plutôt le parcours individuel qui me fascine. D'où mes histoires de fantastique assumées. Mais cela dit, j'ai toujours essayé d'éviter de faire deux fois la même chose. Donc chaque livre que j'ai publié pour l'instant, il y en a cinq, est une aventure totalement différente, qui est aussi un petit bout de moi, enfin, de mon parcours personnel, puisque j'en ai écrit un par an, donc c'est aussi la personne que j'étais durant cette année-là, les envies que j'avais à ce moment-là. Mais j'essaye à chaque fois de partir dans une direction totalement différente pour pas me répéter. C'est assez important pour moi.
Un écrivain, alors évidemment, il se construit une personnalité, une voix propre, sinon c'est pas un écrivain qui touche son public. Mais un écrivain, c'est aussi quand même des influences. Le fantastique de Sir Cédric, au départ en tout cas, c'est quelles influences littéraires ?
C'est ce que je disais, c'est un mélange de littérature classique, romantique, ou même les Théophile Gauthier, les Victor Hugo. Enfin, quand j'avais 12-13 ans, c'est ce que je lisais. À quoi s'est métissé l'influence anglo-saxonne, des Stephen King, des Graham Masterton, des Sean Hudson, enfin, l'anglais Sean Hudson, des littératures très violentes, très influencées aussi par l'audiovisuel. Et ce que je fais aujourd'hui, et la personne que je suis, je pense, aujourd'hui, est un mélange de ces deux cultures. La culture classique et la culture multimédia anglo-saxonne. Sans renier absolument le fait que je suis français et que quand j'écris aujourd'hui, mes livres se passent en France avec des problématiques françaises. C'est important pour moi.
Le fantastique, il a toujours bousculé, on en parlait tout à l'heure. Puis je pense que ceux qui ont étudié les grands auteurs classiques français, d'ailleurs beaucoup, aussi le courant gothique britannique, ont pu le remarquer. Le fantastique aborde quand même des questions dérangeantes. Il aborde, c'est par la métaphore, le tabou, il parle de sexualité, de choses dont on ne parlait pas facilement il y a 30 ou 40 ans, y compris en France. On ne parle pas toujours aussi facilement. On en parle, mais en fait, les histoires...
C'est toujours compliqué.
C'est plutôt quand les enfants sont couchés encore. C'est pour ça qu'on les lit à 22h30 des fois. Et puis, le fantastique de Sir Cédric, avec surprise, parce qu'on pense être une société quand même très avancée en France, et parfois on donne des leçons au monde entier sur à quel point on est intelligent, à quel point on est cultivé, à quel point on a porté les droits de l'homme au monde, à quel point c'est nous qui avons mieux surtout, et puis à quel point on est tous très évolués, et pourtant la censure menace toujours. Et je pense à un petit incident qu'on n'en donnera pas tous les détails, mais quand même qui, moi, m'a frappé, j'irais choqué, des jeunes lycéennes sont venus vous trouver, Sir Cédric, pour dire qu'en 2010, dans des établissements scolaires de cette région,
un établissement partenaire des Imaginales, c'est encore pire.
On ne le dira évidemment pas en public, mais on en parlera aux intéressés en privé. Mais des élèves sont venus vous dire, nous n'avons pas pu lire vos livres, coup de cœur du festival, je le redis, parce que on les a retirés de l'accès aux lycéens.
Parce qu'une méchante documentaliste a considéré que ce n'était pas lisible par des jeunes oreilles, enfin, jeunes yeux et des âmes innocentes qui risquaient d'être traumatisées à vie par mes histoires qui parlent souvent de liberté, de réussir à réfléchir par soi-même et à prendre du recul par rapport aux normes et aux carcans qu'on nous impose. Donc c'est assez intéressant, enfin, assez effrayant surtout. Donc, j'ai assez mal réagi hier quand j'ai appris.
Non, mais pour ça, je savais qu'il allait en parler, alors il valait mieux le précéder. Mais je comprends, parce que moi-même, j'avoue que j'ai été d'abord sidéré. Je précise que quand même, ça fait que 6 ans que je suis plus enseignante et que j'avais affaire à des lycéens, des lycéennes, et que je sais à quel point, surtout quand on les accompagne en classe, à quel point quand on est proche d'eux, peut-être aussi quelques collègues ne sont pas proches d'eux, mais quand on est proche d'eux, et sans faiblesse, mais avec chaleur, eh ben, on peut parler de tout avec eux, à condition que ça soit avec sincérité, avec respect, et en leur donnant parfois une grille de lecture qu'ils n'ont pas toujours, et ils sont des ados comme on l'a été, et réagir en disant « je t'interdis la lecture », au moment où on se bat tellement pour que les jeunes lisent, je me demande là parfois dans quel monde vivent certains de nos collègues ou nos ex-collègues.
En sachant que c'est un lycée où j'ai été invité déjà il y a 2 ans pour faire une intervention en plus. Donc les profs avaient déjà parlé de moi à leurs élèves.
Oh.
Bien sûr.
Oui.
Bien sûr. Bon, maintenant.
En sachant, alors en plus, je vais ouvrir une parenthèse parce que c'est pas le cas partout. Là, c'était vraiment. C'est la première fois que je tombe des nues à ce point. Il y a des collèges catholiques qui ont fait étudier à leurs élèves de 3e, notamment mon recueil de nouvelles, Dreamworld, au programme, dont de nouvelles érotiques. Puisque visiblement, les profs avaient fait étudier Les Fleurs du Mal de Baudelaire, donc le plus grand écrivain de tous les temps français. Et donc, coup de chance pour moi, la prof aimait beaucoup ce que je faisais. Et donc le semestre suivant a fait étudier des nouvelles, enfin le recueil entier, mais 2 nouvelles précisément de Dreamworld, comme l'héritage des Fleurs du Mal aujourd'hui, sans me comparer à des génies de littérature, mais c'était important et c'était en 3e, parce que c'est au programme, la littérature fantastique, la nouvelle fantastique est au programme de 3e. Donc là on est dans un lycée en plus, donc c'est pour ça que ça fait un petit peu peur, mais ce que je voulais dire c'est qu'il faut quand même relativiser, c'est pas le cas partout. Là c'est vraiment un exemple surgi du siècle dernier, mais et des pires heures de notre histoire, mais en général il y a quand même une nouvelle génération aussi, il faut le dire, de professeurs qui ont grandi en lisant des choses nouvelles, il n'y a pas que Balzac et la comtesse de Ségur qu'on peut faire lire à des jeunes âmes, et des profs qui ont lu, ne serait-ce que Harry Potter, qui ont lu Harry Potter, qui ont lu Stephen King quand ils étaient ados, comme moi, et qui ont réalisé que c'était de l'excellente littérature qui pouvait amener en plus les jeunes à réfléchir sur eux-mêmes, sur le monde qui les entoure, tout en les divertissant. Ce qui est quand même un des buts, à mes yeux, essentiels de la littérature, c'est aussi le plaisir du lecteur.
Mais bon, ferme la parenthèse, voilà. Mais c'était important de montrer que le fantastique peut encore déranger, que la littérature peut encore déranger, et que face à une littérature qui dérange, des adultes en sont encore à, non pas accompagner, expliquer, donner, compris un point de vue critique, ce qui est tout à fait le droit de chacun, mais censurer, enfermer et jeter les livres à défaut de les brûler. C'est quand même quelque chose qui nous sidère. C'est le contraire de ce qui se fait avec, évidemment, l'immense majorité de nos collègues, puisque les enseignants sont quand même très mobilisés, on l'a vu hier, autour du prix imaginal des collégiens, des lycéens, et que, heureusement, et en effet, comme pour finir de répondre à la question, on a 2 établissements privés, à Nancy et à Épinal, qui sont complètement investis dans le prix des collégiens et des lycéens, et où la liberté de lecture est visiblement totale. Donc, heureusement, c'est quand même plutôt... Mais soyons vigilants, c'est ça aussi qu'il faut dire. Ce festival est un lieu de liberté, il le restera. Ça, je vous le dis clairement. Cette parenthèse terminée, mais c'était important de montrer que la littérature, elle bouge les choses, hein. Elle bouge les gens, et elle les fait réagir. Et est-ce que finalement, la littérature que vous écrivez, Sir Cédric, qui parfois, c'est vrai, violente, parfois elle bouscule, parfois elle dit des choses terribles, mais c'est peut-être aussi la réalité de la vie.
Mais c'est ce qui se passe dans notre corps, dans notre tête, quand on vit notre vie, on vit dans notre tête, dans nos tripes. Donc la vie est viscérale, est violente, c'est un paradoxe de choses à la fois horribles et poétiques, d'aspiration et de terreur. Enfin, c'est comme ça, mais c'est aussi le fantastique, c'est ça. On en revient au classique, on en revient à Maupassant, enfin, c'est que tout le monde a lu, ce sont des choses très, très paradoxales. Et très violente. La vie est violente, mais c'est ce qui la rend merveilleuse. À mes yeux, en tout cas, parce que si c'était une ligne droite, ce serait pas forcément aussi génial à vivre au quotidien. Parce que bon, tout ceci étant dit, je suis quelqu'un d'extrêmement positif et j'adore la vie. Je pense qu'il y a toujours des nouvelles choses à découvrir tous les jours, des nouvelles personnes à rencontrer, des nouveaux endroits à aller voir dans le monde. Donc voilà, il n'y a pas du tout un côté négatif qu'on me prête parfois par a priori sans avoir lu une seule ligne de ce que je fais.
C'est pas parce qu'on s'habille en noir
voilà,
c'est... qu'on a un piercing que c'est inquiétant et qu'on est en pleine crise quand on est ado, quand on est adulte.
On va pas parler de mes piercings.
Oh zut. Bon, on parle, mais il a beaucoup de choses à dire et tant mieux. Mais peut-être qu'on va aussi écouter le texte. Et Sylvain Demierre, notre lecteur fidèle depuis l'an dernier, et qui le restera, va nous en lire un extrait.
Tu sais quel extrait il va lire ?
Tu vas voir. Surprise.
Moi, je suis curieux.
En moins de 20 minutes, deux équipes supplémentaires étaient arrivées sur les lieux. Et une trentaine d'hommes du service régional de la police judiciaire s'étaient répandus dans la ferme. Des projecteurs furent braqués sur chaque recoin, tandis que les agents sécurisaient pièce après pièce. Pourtant, Héloïse Lombard n'avait pas quitté les bras du commandant Sverta. Elle se cramponnait à elle comme à une bouée et restait là, muette, sans bouger. La profileuse avait demandé qu'on lui apporte des vêtements que la jeune fille avait enfilés au ralenti, dans une sorte d'état second. Puis toutes deux avaient marché à l'extérieur, loin du fourmillement policier, loin de ces horreurs et de cette puanteur. Elles restèrent assises à l'arrière du fourgon, blotties l'une contre l'autre en attendant la psychologue. Celle-ci arriva enfin. C'était une femme potelée, au visage rond et aux yeux pleins d'écoute. Elle s'accroupit devant Héloïse et lui parla d'une voix douce. Cela ne changea pas grand-chose. La jeune fille refusait de lâcher les bras de celle qui l'avait sauvée. Eva dut l'accompagner jusqu'au véhicule de la psychologue. Héloïse n'avait toujours pas décroché le moindre mot. « Tout est fini », lui murmura Eva à l'oreille. « Ils ne reviendront plus jamais te faire du mal. Tout va bien, d'accord ?»
Alors, de fièvre et de sang, on est dans un thriller gothique, on va dire, un thriller fantastique.
Un thriller tout court.
Et un polar. Et un polar, puisque là on voit bien, même si c'est pas montré, qu'il vient de se passer des choses horribles, que la jeune fille a échappé de très peu à la mort, que c'est vraiment une intervention de dernière minute, et donc il y a une enquête. Et pourtant il y a du fantastique. Alors c'est du polar, c'est du fantastique, ce thriller, c'est quoi ?
C'est du thriller, à mes yeux, c'est une histoire, hein. Déjà. Non, c'est important de le préciser, c'est une histoire où il se passe pas mal de choses, hein, où on a des mystères, on a des personnages que le lecteur va découvrir, avec qui il va vivre l'espace de quelques centaines de pages. Et c'est difficile d'en parler sans dévoiler trop l'intrigue. En tout cas, les deux personnages principaux sont deux policiers, donc Eva Sverta, qu'on vient de voir, qui est une albinos, commandant de police au Quai des Orfèvres, hein, parisien, qui fait équipe avec le commandant Vauvert, qui apparaissait dans mon précédent livre, qui lui est un commandant donc, du SRPJ de Midi-Pyrénées, donc flic à Toulouse.
Là où vous habitez.
Voilà, parce que la plupart de mes livres, donc, tous, se déroulent dans des endroits que je connais, dont Toulouse, où j'habite, hein, dont Paris, où je vais régulièrement. Là, dans De Fièvre et de Sang, on commence en Ariège. Il y a des scènes en Aveyron. Enfin, j'aime bien explorer un petit peu comme ça la France, à ma manière, à prendre des lieux anodins qu'on peut connaître, contrairement à certains auteurs qui placent leur intrigue très loin pour le dépaysement. Moi, j'essaye d'apporter du dépaysement dans les endroits qu'on connaît, en y plaçant des choses assez horribles. Et donc, pour répondre à la question, thriller, fantastique, je sais pas, c'est un livre vampirique. Mon envie, quand j'ai commencé à écrire De Fièvre et de Sang, c'était d'écrire une histoire de vampire à ma manière, c'est-à-dire pas un vampire classique avec la cape et les chauves-souris et Christopher Lee, mais une histoire qui se passe aujourd'hui, ancrée dans les angoisses contemporaines, qui sont finalement des angoisses éternelles, et qui ont créé les mythes des vampires depuis la civilisation d'As, que j'évoque dans le roman, donc, qui est la première civilisation européenne, qui vénérait les loups, le sang, qui avait comme but ultime la quête de l'immortalité, à travers des sacrifices assez terribles. Et en fait, de nos jours, on est tous, et tous les personnages ont ces angoisses-là, cette peur de vieillir, cette image que nous imposent les médias. Enfin, j'aime beaucoup travailler sur l'image, et sur qu'est-ce qu'on renvoie aux autres, comment les autres nous perçoivent, comment on se perçoit derrière nos propres barrières, et nos propres terreurs personnelles, et toujours enfantines, et finalement qui restent là, parce que la part d'enfance aussi est toujours très importante dans ce que je fais. Et donc dans ce livre, tous les personnages ont ce rapport aux autres, à l'apparence. La profileuse est albinos, elle s'imagine comme un monstre, donc elle se protège beaucoup de la société tout en ayant toujours besoin de ce contact humain. Donc c'est aussi toujours le fameux paradoxe de l'âme humaine, je pense, qui fait qui on est. Le commandant Vauvert, qui est une espèce de colosse, on est brisé, c'est un gros ours aussi, qui est à la fois très semblable à Eva et à la fois très différent. Là où elle est maniaque, lui, il est très bordélique. Hein. Là où il est alcoolique et relativement solitaire, hein, elle sort et elle est très sociale, hein, tout en rejetant la compagnie après. Et donc l'idée au centre du livre, c'est ça, c'est cette peur de vieillir. C'est le fait qu'il y a une scène, par exemple, avec une rédac chef d'un magazine, hein, qui va faire ses 40 ans.
On va dire trop,
on va lire le. Ah ben alors on va. Et je pense que le moment est venu pour enchaîner.
Voilà. Et justement,
sur un extrait.
On va lire cet extrait-là.
Sur cette thématique-là du rapport à l'image, qui nous conditionne tous et qui crée des psychopathes aussi.
Audrey Desiderio se sentit soudain vieille. Comment pouvait-on se sentir vieille à seulement 39 ans? Oh, elle savait bien. Elle n'avait qu'à jeter un œil sur les murs de la salle de réunion. Toutes ces couvertures sur lesquelles s'étalaient d'improbables mannequins de 14 ans, entièrement retouchés numériquement, destinés à vanter les mérites de produits cosmétiques dont ces filles n'avaient de toute évidence pas encore eu le moindre besoin. Elle avait passé les deux derniers jours à revoir chaque point du sommaire. Gardez votre silhouette d'été tout l'hiver. Mode le gothique chic. Mon homme fantasme sur les femmes plus jeunes que moi, que faire ? Elle savait pourtant que ce n'était que de la communication, des phénomènes de mode que les médias entretenaient pour vendre davantage de produits de leurs actionnaires. Elle s'était sentie supérieure pendant des années, quand elle tenait vraiment les rênes de sa vie, quand elle pouvait encore donner l'illusion aux autres comme à elle. Mais maintenant, dans moins de 6 mois, elle allait entrer dans la quarantaine. À force de relire son sommaire, de voir toutes ces photos de gamines anorexiques habillées comme des actrices de films X, une seule envie montait tout au fond d'elle, leur ressembler, quelques instants encore, juste être encore un peu comme elle.
Alors, cher Cédric, la dictature de l'image, de la beauté, du corps, de la jeunesse éternelle, toute cette frénésie dans notre société, qui en fait ne présente quasi plus dans ces magazines de mode que des fictions.
Oui. Non mais que répondre à ça? Non oui, c'est une des choses qu'on retrouve dans le livre et dans tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, parce que c'est, je pense qu'un auteur est aussi, sans vouloir donner être un donneur de leçons ou avoir des messages vraiment importants, puisque on reste toujours dans le divertissement quand même, mais pour que le divertissement fonctionne, il faut qu'il fasse écho à des choses qu'on vit au quotidien, et c'est ce que j'essaye de faire, et ça ce sont des thématiques qui me touchent, qui me font réfléchir. Donc que je mets systématiquement, mais voilà, c'est pas au cœur non plus, c'est pas le propos du livre, mais il y a toujours ça.
Il y a un peu
difficile d'en dire plus.
Desiderio, c'est vous?
Alors absolument pas et totalement, parce que tous les personnages sont moi. Enfin, ils sont sortis de moi, donc sont des petits bouts de plus profond de ce que je peux être, de ce que je peux rêver, craindre, de ce que je peux m'imaginer, des questions qui peuvent me travailler ou tourner en boucle aussi. La preuve, c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent. Donc ils sont à la fois entièrement moi et à la fois absolument pas moi, ce sont des personnages.
La dictature du look, vous qui avez justement une façon d'être et un look, Sir Cédric, est-ce qu'il n'y a pas aussi un regard, un recul sur ce qui est soi, ce qu'on exprime en s'habillant d'une certaine façon, on dit des choses aux autres, et le regard, y compris critique qu'on peut avoir sur la façon dont on se situe dans ce qui est cet univers que vous décrivez avec beaucoup d'humour noir?
Oui, parce que je pense que l'humour il est indispensable, et le second degré est indispensable pour survivre dans le monde dans lequel on est plongé, à mes yeux en tout cas. Non, c'est pas tant que je veux mettre cela en scène précisément par rapport à mon look, mais c'est quelque chose de fait que je vis au quotidien. Je m'habille pas de la manière dont je m'habille pour, comment dire, je le fais parce que j'en ai besoin. Je sais pas pourquoi. Donc c'est aussi pour ça que je creuse ses propres questions avant tout pour moi-même quand j'écris, puisque c'est quand même, l'écriture est quand même un exercice très solitaire et très égoïste finalement. Même si on fait ça pour les autres, au final c'est quand même l'ego qui va chercher au plus profond de lui-même le meilleur qui puisse donner aux autres. Et c'est vrai que en revanche on en revient au problème parfois des quiproquos qu'il peut y avoir par rapport à certains très rares enseignants qui s'arrêtent à l'apparence. à des a priori, des atavismes qu'on leur a fait rentrer dans le crâne depuis des générations. C'était la chasse aux sorcières avant, c'était voilà, la personne différente. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand j'écris, ce que j'essaie de faire, c'est de pouvoir montrer aux autres que c'est possible de juste d'être soi-même, juste de devenir qui on est, pour citer un philosophe. Mais c'est ça, c'est ce que j'essaye de faire. Mais déjà, avant tout pour moi, effectivement. Mais en revanche, j'insiste là-dessus, mon look, pour le coup, n'est pas politisé ou n'est pas une manière de dire je suis. Enfin, c'est comme ça qu'il faut être ou.
Ça n'a pas non plus été construit avec votre éditeur pour votre
absolument pas, j'ai toujours été comme ça. Non, mais après, c'est juste une culture, c'est juste la personne que je suis. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à l'oublier. Bon, c'est un peu idiot parce que les gens, en général, ne voient que ça. Mais moi, j'ai tendance à oublier à quoi je ressemble. Et, c'est assez intéressant sur le look. En revanche, ce qui est certain, c'est que cette dictature de la jeunesse, donc, qui fait que le vampire est aussi populaire ces temps-ci d'ailleurs, c'est pas, à mon avis c'est pas anodin là, les deux, l'ange vampire et la jeunesse éternelle et juvénile que les médias nous servent depuis une vingtaine d'années, je pense on peut voir quand même des parallèles assez importants sur l'inconscient collectif et tout ce que ça peut générer aussi en termes d'argent pour tout ce qui est comment dire, les nip-tuck, les chirurgiens esthétiques et les produits de beauté qui nous transforment en véritables vampires, puisque c'est une des choses que je dis aussi dans le livre, puisque on parle de vampires, on parle de prendre la vie d'espèces inférieures en l'occurrence, donc d'êtres humains pour prolonger la sienne. Mais ces magazines, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent des produits de beauté à tout le monde, et les produits de beauté sont faits avec quoi? Avec des matières animales. Donc c'est, je trouve que le vampirisme, il est dans nos vies quotidiennes à tous les niveaux.
Et oui, on voit bien que derrière la violence qu'on vous reproche parfois dans vos romans, bon d'abord violence qu'on voit aux actualités en plus, donc on a l'impression qu'il y a un peu d'hypocrisie quand c'est au journal de 20h, on sort les pires horreurs en famille et ça pose pas de problème, mais quand c'est dans un livre, ça dérange plus, c'est d'ailleurs très étrange parfois ce rapport entre la littérature qui dérange et l'actualité qu'on regarde d'un œil blasé, y compris avec les jeunes enfants devant le journal télévisé. C'est quelque chose qui m'a toujours étonné. Dans vos romans et le recueil aussi Dreamworld qui l'a précédé, justement il y a cette mise en scène de la violence, mais comme vous le disiez, il y a aussi cette façon de creuser.
En tout cas, c'est jamais de la violence pour la violence. C'est pas, je me dis pas, tiens, je vais écrire une scène où le monsieur se fait écraser la tête et ça va être chouette. C'est pas du tout ma démarche et ça l'a jamais été, ça ne sera jamais. Quand j'utilise des éléments comme la sexualité, qui est une texture que je travaille beaucoup, et le sang et la violence très esthétisée, c'est toujours comme moteur narratif pour déjà pour faire avancer l'histoire, pour expliquer la psychologie des personnages, et souvent ce sont des scènes clés des histoires, c'est-à-dire qu'il se passe réellement quelque chose dans cette scène de séquestration ou de sexe quand les personnages sont amenés à avoir des relations sexuelles. C'est pas pour les montrer nus comme certains films le font, où il faut qu'à deux tiers du film on voit l'héroïne seins nus sous la douche parce que c'est dans le contrat. Ça, je trouve ça idiot. On peut couper ces scènes, elles ne changent rien au film. Quand j'écris, notamment dans le recueil Dreamworld, encore une fois de nouvelles très romantiques, très exaltées et à la fois très sexuelles, toutes ces scènes sexuelles sont là pour définir la psychologie des personnages, pour montrer ce qui se passe, sont des moteurs narratifs. C'est au cœur de l'intrigue. Si on les enlève, il n'y a plus d'histoire. Puisque ces scènes-là sont ce qui se passe. On en retrouve une qui a été lue justement il y a deux jours dans la lecture, quand les enfants étaient couchés au Bounia, de Deux Fièvres et Deux Sangs, où, alors je ne sais pas si on peut faire un spoiler ou pas, mais par rapport à la profileuse, Eva, on la voit avoir une relation sexuelle et on voit comment elle gère la chose et comment elle se débarrasse juste après de son amant voilà, pour se protéger, pour ne pas se laisser, alors qu'elle a besoin de ce contact, mais en même temps dès que l'acte est fini elle le fout à la porte de manière assez sèche pour qu'il ne la contredise pas. C'était ce que je voulais montrer sur elle, sur ses propres problèmes, sur sa vie. Il y a une scène comme ça, on comprend qu'elle fait ça très, très souvent, mais je voulais le montrer une fois pour montrer clairement comment ça se passe, comment elle le vit, comment le garçon, le pauvre garçon qui est habitué à l'inverse en général, parce que j'aime bien aussi inverser pour faire réfléchir les gens, c'est aussi intéressant de prendre des situations qu'on a vécues au quotidien et qui sont presque devenues des choses habituelles, que les filles finalement finissent par accepter malheureusement. Et quand on inverse les situations, c'est plus la même chose. Donc ça fait ou sourire ou en tout cas, enfin, j'espère réfléchir et j'espère qu'on comprend mieux la personnalité de mon héroïne et ses propres problèmes.
Avant d'en revenir à De fièvre et de sang, puisque c'est quand même le dernier roman, L'enfant du cimetière, est-ce qu'on peut peut-être en dire un mot? Oui. ce premier thriller vraiment qui se situe après donc la réédition de Dream World. On peut dire qu'en gros, L'enfant du cimetière, c'est votre premier thriller grand public, en tout cas à vocation.
C'est mon premier déjà livre un peu ambitieux sur lequel j'ai réellement travaillé. C'est vrai qu'au début, on en revient à mes débuts d'auteur, où j'écrivais parce que voilà, il y avait ce jaillissement, j'avais des choses à exprimer. Même au début, je ne me rendais même pas compte que j'allais réellement être lu. Enfin, j'avais envie de faire partager, mais je ne réalisais pas que j'allais un jour en faire mon métier. Donc j'écrivais, je mettais beaucoup de moi-même. Et est arrivé un jour où donc je suis rentré chez un grand éditeur qui est le Pré au Clair, mais les termes du contrat étaient très très clairs. Il fallait que cette fois je me donne un petit peu des coups de pied aux fesses pour aller plus loin, essayer d'aller chercher plus loin dans mes histoires, dans ma narration, m'adresser aussi, et c'est important de le dire, à un plus vaste public, et ce qui paradoxalement a donné lieu à un livre bien meilleur que ce que j'aurais fait si je l'avais écrit juste pour moi. Donc c'est souvent important de le rappeler. Donc là, j'ai vraiment travaillé mes personnages, mon intrigue, qu'est-ce que j'avais envie de faire passer. J'ai passé beaucoup de temps sur ce livre et j'ai écrit la fin 3 fois jusqu'à arriver à quelque chose que... Les 3 fins étaient totalement différentes, mais les premières ne marchaient pas. Et jusqu'à arriver à vraiment quelque chose où la boucle, littéralement, est bouclée, le pli retombe et avoir un livre vraiment fini. Donc c'était mon premier livre ambitieux. Donc. Et là aussi la première fois que j'essayais ce mélange d'enquête policière et d'éléments surnaturels, auxquels j'avais tourné beaucoup les années précédentes, mais j'avais jamais osé, puisque c'est quand même un genre assez ambitieux, j'avais jamais osé me lancer dans cette aventure-là. Mais dans ce livre-là, on retrouve déjà les mêmes thématiques de transformation, de place dans la société. L'enfant des cimetières, c'est l'enfant d'un démon qui a été abandonné, donc qui n'appartient ni au monde des hommes, ni au monde des démons, qui ne sait même pas qui il est, d'où il vient, qui a juste des pouvoirs terrifiants, comme tout ado. Et qui fait n'importe quoi en fait. Mais même souvent dans ce que je fais, les méchants ne sont pas réellement. Je crois pas au mal absolu, par exemple. Je crois à un ensemble de choses qui fonctionnent correctement, qui s'appelle l'univers. Que même si on le comprend pas, dans le chaos dans lequel on vit, je pense qu'il y a un ordre. En tout cas, quand j'écris, j'essaye de chercher ces gouttes d'ordre et de sens au sein du chaos. Et donc aussi bien dans De fièvre et de sang que dans L'enfant des cimetières, les méchants sont simplement des personnes qui ont eu les mêmes failles, les mêmes traumatismes que les personnages positifs, sauf qu'ils n'ont pas réussi à les gérer, à dépasser leurs propres problèmes pour s'insérer dans la société, pour ne pas faire du mal aux autres, et qui continuent à reproduire des schémas atroces. Mais finalement, Eva, la profileuse dans De fièvre et de sang, aurait pu devenir un monstre complet, puisqu'elle a vécu quelque chose d'absolument terrible quand elle avait 6 ans, qui d'autres personnes seraient devenues des tueurs en série à leur tour. Elle, à la place, elle gère ça en étant un monstre qui traque les monstres. Donc c'est vraiment sa croisade personnelle. Si elle est aussi violente aujourd'hui, si elle met ses barrières autour d'elle à ce point-là, et si elle s'acharne à traquer toujours, même en dépit des consignes de sa hiérarchie, parce qu'il y a aussi toujours cette idée de briser les règles qui dérange certaines personnes, mais le fait que parfois, pour résoudre les problèmes, on est obligé de ne pas respecter les règles. Et ça aussi, c'est une vision personnelle qui peut être... qu'on peut en discuter. Mais disons que ces personnages-là réussissent à dépasser leurs problèmes pour essayer d'apporter un tout petit peu d'ordre dans ce monde, à leur propre niveau, et surtout à ne pas devenir fous. Alors que d'autres personnes ont eu les mêmes problèmes, mais ont basculé parce qu'ils étaient plus faibles, parce que voilà. Et c'est catastrophique, parce que ces gens-là, du coup, deviennent des vrais monstres. Mais à la base, c'est pas... Je crois pas au mal absolu, encore une fois. Je pense qu'on peut tous basculer. Et inversement, je pense que la pire des personnes peut toujours revenir... après, on revient à Star Wars, mais c'est ça, c'est les thématiques essentielles à l'être humain. Je pense que l'âme humaine est tellement complexe que le bien et le mal sont totalement relatifs et dépendent vraiment du côté dont on se place. On le voit bien dans les guerres... C'est toujours les... Et en général, celui qui gagne, c'est le gentil, quoi qu'il arrive. Et celui qui a perdu, c'est forcément le méchant. Et c'est intéressant. Et en tout cas, en tant que créateur, c'est très intéressant de jouer sur cette ambiguïté permanente de tous les personnages.
Des fois, on vous taquine en voyant les dizaines et parfois centaines, comme au Salon du Livre à Paris, je l'avais constaté, de jeunes, et en particulier de jeunes lycéennes, qui vous regardent avec des grands yeux. Donc voilà, on vous taquine parfois là-dessus, Sir Cédric, mais plus sérieusement, au-delà de ce que me disait tout à l'heure une lectrice, il a du charme, je vais vous faire rougir. Au-delà de ça, et cette petite plaisanterie, je dirais que les jeunes en particulier, puisque c'est une littérature a priori pour adultes, Les jeunes qui viennent vous voir, entre autres les jeunes lectrices, c'est évidemment pas la violence, l'horreur, etc. C'est que malgré ça, elles sentent, je pense, deux choses. Je dirais si vous êtes d'accord. D'abord, une sincérité. Je pense que l'écrivain qui touche le lecteur, c'est quand il est honnête. Alors, il y a de multiples façons
de l'être. Il y a une autre façon de faire.
Voilà.
Je pense pas.
C'est, en tout cas, il va vers son lecteur. Il ne fait pas un produit, il fait un livre. Il raconte une histoire, comme vous le disiez tout à l'heure. Et j'ai l'impression aussi que c'est parce que toutes ces transformations, toutes ces angoisses, toutes ces pulsions de violence, tous ces doutes, et quelque part, ça les renvoie à eux. Ça les renvoie à eux-mêmes, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont parfois du mal à exprimer eux-mêmes, sinon dans leur journal intime, surtout les filles, et ce qu'ils ont parfois du mal à exprimer aussi parfois aux adultes, et qui parfois peuvent jaillir sous forme de violence réelle et non plus symbolique. Je pas, enfin c'est comme ça que je perçois.
Oui, mais je suis d'accord, mais après c'est dur de. Non, mais je suis entièrement. Oui, c'est ça, je pense. Mais en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est sur l'objet livre, c'est que. Et sur ce métier. Écrivain, c'est un métier. Mais c'est pas un métier en même temps. Et donc, et je m'y suis retrouvé dans cet univers-là aussi, de l'édition et de la création, parce que je suis un paradoxe, comme je le disais, et c'est un milieu qui est un milieu paradoxal, parce que on écrit pour les autres, pour faire plaisir aux autres. J'ai une théorie là-dessus que je pense que c'est notre ego complètement qui écrit, mais en fait, c'est une articulation, c'est-à-dire que c'est notre ego qui écrit, donc c'est pas un vrai métier. Mais on le fait pour les autres. Pour que ce soit bon, il faut qu'on invente ces histoires-là pour les offrir aux autres. Parce que ça sert à rien de raconter s'il n'y a personne qui écoute. Et le piège, c'est qu'au bout d'un moment, de se mettre à écrire pour son ego. Donc du coup, c'est plus l'ego qui écrit. Donc du coup, c'est même plus bon. Enfin, c'est le cercle vicieux, c'est des problématiques, je pense, que tous les auteurs rencontrent un jour ou l'autre. Et un livre, donc, c'est à la fois du divertissement, à la fois quelque chose qui vient du fond de nos tripes. Et c'est vrai que c'est très dur d'en parler. Parce qu'il y a toujours c'est les deux à la fois. C'est le bien et le mal à la fois, c'est toujours ces opposés ensemble. C'est ce qui me fascine dans la littérature. Et je l'ai déjà dit mille fois, mais c'est également aussi le fait que c'est de la magie, parce qu'il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de lieu. On raconte, on n'arrête pas de parler des personnages, on n'arrête pas de parler des émotions. C'est du papier. Ils n'existent pas, en vrai. Et pourtant, dès l'instant où on ouvre le livre, les personnages existent dans notre tête. Donc pour moi, c'est la plus fabuleuse des formes de magie, et des magies réelles qu'on peut vivre au quotidien. Mais du coup, c'est ça, c'est la littérature, c'est ce paradoxe complet de marché, parce qu'il faut le vendre, c'est ça qui nous fait manger aussi. Et en même temps, moi, j'en vivrai pas, je ferai la même chose quand même. Donc, moi, ça me fascine.
Quand on verra notre chat lire, ça sera inquiétant, il se passera vraiment quelque chose. C'est vraiment particulier à l'espèce humaine. Et ce rapport, en effet, au personnage qu'on ressent, qu'on vit, et le papier, on le disait déjà hier, on en parlait, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'y réfléchit pas, parce que c'est une évidence pour nous, la lecture. Et pourtant, c'est ça.
Et puis les passions que ça déchaîne après.
Quand on dit que c'est une magie, quand on parle de magie, on dit, oh, moi je suis un réaliste et tout, la magie, il lit des livres. C'est déjà une magie de lire un livre. Et en effet, de croire à un monde... C'est des lettres, c'est du papier, c'est de l'encre et tout, et ça c'est.
Mais dans les premiers temps de l'humanité, qu'est-ce que les êtres humains, les premiers êtres humains dans les grottes obscures ont fait? Ils ont trempé leurs mains dans le sang des bêtes qu'ils avaient tuées ou autres, pour essayer de dessiner des choses, pour raconter des histoires. Enfin, je pense que ça fait partie de nous, de nos fibres, et on peut essayer de s'en éloigner. Et d'ailleurs, je l'ai fait. Donc encore une fois, quand j'avais une vingtaine d'années, on y revient toujours. Ça, c'est trop important pour nous, pour notre âme. On en a besoin. Après, on a un peu trop de psy, je pense, aujourd'hui, et pas assez de conteurs. Je pense que voilà.
La magie, c'est la littérature, et la littérature, c'est le coup de cœur, c'est Sir Cédric. Un petit extrait encore, un dernier pour la route, avant qu'on se quitte et qu'on se retrouve sur la bulle du livre.
Vauvert réalisa qu'il ne parviendrait pas à s'endormir. Pas avec l'orage qui redoublait de violence. Le tonnerre roulait sur la ville, faisant frémir les murs de son appartement. Au dehors, l'alarme d'une voiture hurlait depuis au moins 20 minutes sans que personne ne vienne l'arrêter. Eh merde! Il était exténué, mais il savait que s'il allait se coucher maintenant, il ne trouverait pas le sommeil. Il était sujet à ses insomnies depuis qu'il était enfant. Aucun médicament n'avait jamais réussi à l'aider. Il en avait essayé des dizaines. Il avait fini par abandonner le recours à la pharmacie et s'était résolu à ne plus se bourrer les oreilles de boules quies non plus. Il s'était juste fait une raison. Deux nuits sur trois, il ne dormait pas, et voilà tout. Ce soir, comme tous les soirs de ce genre, il était donc resté installé dans son canapé. La télévision passait des séries policières allemandes particulièrement farfelues, qui avaient au moins le don de le faire sourire et de happer son attention pendant quelques heures. Il porta sa cigarette à sa bouche et aspira une dernière bouffée avant de glisser le mégot dans une canette de bière vide.
Vous êtes insomniaque, cher Cédric ?
Depuis que je suis petit. Et je dors avec des boules casses. Mais j'ai arrêté les médicaments.
Finalement, l'écriture, c'est quand même un bon médicament. Bah, écoutez, c'est sur ces bonnes nouvelles sur la santé de Sir Cédric qu'on va se quitter. Je vous propose d'abord, on remercie Sylvain Demierre pour ses lectures qui nous donnent toujours un plus dans ses grands entretiens avec un auteur.
Merci beaucoup.
Sir Cédric, évidemment, qui a été notre invité, qui est notre coup de cœur jusqu'à dimanche soir, mais il restera ensuite après, un de nos écrivains et préférés. Et puis, je vous propose tout simplement de le rejoindre sous la bulle du livre, parce que si vous n'avez pas encore eu le plaisir de lire tous ses livres, Dream World, un recueil de nouvelles vraiment de très belles factures, L'Enfant des cimetières et De fièvre et de sang, son dernier roman, dont sont issus les extraits que Sylvain nous a lus. Merci.